d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 2 novembre 2018. Au Tchad, 6 Soudanais sont morts lors d'échauffourées cette semaine dans un camp de réfugiés. 180 morts d'Ebola dans l'est de la RDC selon un nouveau bilan de l'épidémie. Libération de deux proches de Riek Machar dans le cadre de l'accord de paix au Soudan du Sud. 7 Coptes ont été tués en Égypte ce vendredi par des hommes armés à Minya. Washington octroie des dérogations temporaires à 8 pays pour l'importation de pétrole iranien. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. Dans l'est du Tchad, 6 réfugiés soudanais sont morts et une dizaine d'autres ont été blessés lors d'une rixe cette semaine dans le camp de réfugiés de Bredjing. Jacques Aristide nous en dit plus.
La distribution de vivres est à l'origine de ces échauffourées, d'après Abdel Hatim Tahir, coordonnateur de l'ONG Agence pour le développement économique et social, présente dans le camp. Mécontents de ne plus recevoir de vivres, des réfugiés désormais considérés comme autonomes par l'ONU et le Tchad, après 15 ans d'aide, ont attaqué les membres de leur comité de distribution à coups de couteaux et de gourdins. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU à N'Djamena indique que les auteurs des tueries ont été mis aux arrêts et à la disposition de la justice après l'intervention des forces de sécurité tchadiennes dans le camp. Plus de 335 000 Soudanais sont réfugiés au Tchad, fuyant depuis 2003 le conflit au Darfour. Pour le moment, seules quelques centaines de ces réfugiés au Tchad et quelques milliers de réfugiés tchadiens au Soudan ont été rapatriés par un programme de rapatriement volontaire paraphé l'an dernier par les deux pays et l'ONU.
En Centrafrique, les affrontements ont repris ce vendredi entre les forces MINUSCA FACA et des éléments de l'UPC à Bombari, dans le centre du pays. Dans le même temps, la tension est aussi vive à Batangafo, après les violents heurts qui ont opposé mercredi des ex-Séléka aux anti-Balaka, causant d'énormes dégâts matériels et humains. Par ailleurs, à Bangui, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, clôture sa visite dans la capitale centrafricaine ce vendredi. Épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours, portant le bilan total à 180 morts. Claire Morin-Gibourg.
285 cas de fièvre hémorragique ont été signalés en Ituri et dans la région de Beni, dans le Nord Kivu, dont 180 morts, selon le dernier communiqué du ministère de la Santé congolais. Selon les autorités, des résistances communautaires ont entravé le bon déroulement des opérations de riposte. Le ministère de la Santé a assuré que la gratuité des soins est effective dans 3 zones de santé de Beni, Babalako et Oicha depuis le 20 août et que plus de 25 000 personnes ont été vaccinées. Cette 10e flambée s'est déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu. L'épicentre de l'épidémie s'est ensuite déplacé vers la frontière avec l'Ouganda, à Beni, fief du groupe armé ADF qui multiplie les attaques contre des civils, compliquant la riposte sanitaire. Depuis la mi-octobre, les autorités congolaises font face à une deuxième vague de cette épidémie à Beni, dont les professionnels de santé ont du mal à déterminer l'ampleur.
Les autorités ougandaises ont annoncé qu'elles vont vacciner dès la semaine prochaine contre le virus Ebola le personnel de santé travaillant dans 40 centres près de la frontière avec la RDC, actuellement touchée par une épidémie. Ce sera la première fois que le vaccin contre Ebola est utilisé dans un pays où aucun cas de cette fièvre hémorragique n'a encore été enregistré. Au Soudan du Sud, le porte-parole et un conseiller de Riek Machar ont été libérés. Ils étaient condamnés à mort. Abdourahmane Dia.
C'est le président Salva Kiir lui-même qui a ordonné la libération de William Henley, un colonel sud-africain à la retraite, et James Godde. Ceci dans le cadre d'un réchauffement des relations entre le président et son rival et ancien vice-président Riek Machar, qui était mercredi à Juba pour célébrer la signature d'un accord de paix. Nous sommes là pour mettre en œuvre un ordre du président. Leur libération entre dans le cadre du processus de paix. Ils sont maintenant libres, a déclaré le ministre de l'Intérieur, après avoir signé les papiers confirmant leur sortie de prison. Amnesty International a immédiatement salué leur mise en liberté. Le plus jeune État du monde qui a arraché son indépendance en 2009 du Soudan est plongé dans une sanglante guerre civile depuis 2013. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées selon les organisations internationales. Ces affrontements ont causé le déplacement massif de populations, la destruction des infrastructures, de centres de santé ainsi que l'arrêt de la production pétrolière.
Sept chrétiens coptes ont été tués ce vendredi en Égypte quand des hommes armés ont ouvert le feu sur le bus dans lequel ils voyageaient à Minya, dans le centre du pays, a indiqué l'évêque de la province. Un responsable des services de sécurité a indiqué que l'attaque avait fait également des blessés. Les attaques meurtrières contre les coptes sont fréquentes en Égypte. En mai 2017, 28 pèlerins, dont plusieurs enfants, avaient été tués à Minya alors qu'ils voyageaient à bord d'un bus. L'Égypte avait répondu à cette attaque revendiquée par le groupe État islamique par des frappes aériennes contre des camps djihadistes en Libye voisine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, plus de 7000 militaires seront prépositionnés d'ici la fin du week-end dans les États américains frontaliers avec le Mexique, de la Californie, l'Arizona et du Texas. Ce chiffre comprend 2100 réservistes de la garde nationale déjà déployés depuis des mois, a précisé Michael Kucharek, un porte-parole du commandement nord de l'armée américaine. NORTHCOM supervise l'opération destinée à bloquer les caravanes de migrants centra-américains qui se dirige vers les États-Unis pour y demander l'asile. À 4 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui s'annoncent très serrées pour les républicains et les démocrates au Congrès, le président Donald Trump accentue sa campagne sur l'immigration. Le point avec Eric Manirakiza.
Quelle que soit l'étape de sa campagne, le message du président Trump est centré sur l'immigration, sujet susceptible à ses yeux de galvaniser l'électorat républicain. Mercredi, il a annoncé qu'il pourrait déployer 15 000 soldats à la frontière. Hier, il a assuré que l'armée américaine pourrait tirer sur les migrants qui tenteraient d'entrer illégalement aux États-Unis au cas où ils lancent des pierres. Donald Trump reprend nombre des recettes qui ont fait mouche lors de sa campagne victorieuse de la présidentielle de 2016. Ce soir, il sera dans l'Indiana, accompagné sur scène, comme 2 ans plus tôt, du légendaire entraîneur de basketball Bobby Knight. Si la course s'annonce serrée, les derniers sondages donnent la victoire des démocrates à la Chambre des représentants. Par contre, l'équation est extrêmement difficile pour le Sénat. Les démocrates doivent défendre 26 des 35 sièges en jeu, dont plusieurs dans des États qui ont largement voté pour Donald Trump en 2016.
Toujours aux États-Unis, Pittsburgh enterre la dernière victime de la pire tuerie antisémite jamais perpétrée dans le pays. Rose Malinger est la plus âgée des 11 fidèles tuées dans une synagogue de la ville il y a 6 jours. Elle assistait à l'office du Shabbat avec sa fille Andrea Wedner qui a été blessée lors de l'attaque. Un responsable turc affirme que le corps de Jamal Khashoggi, assassiné au consulat saoudien à Istanbul, a été dissous. Ils ne se sont pas contentés de le démembrer, ils s'en sont débarrassés en le dissolvant, a déclaré Yassine Akte, conseiller du président Recep Tayyip Erdogan. Un mois après sa mort et malgré les efforts déployés par les autorités turques, son corps ou ce qu'il en resterait n'a toujours pas été retrouvé. Les États-Unis ont confirmé qu'ils rétabliraient lundi toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien. Ces sanctions visent les exportations de pétrole, le secteur bancaire, la construction navale et le transport maritime, a dit le chef de la diplomatie Mike Pompeo. 8 pays bénéficieront toutefois de dérogations et seront autorisés temporairement à continuer d'importer du pétrole iranien, mais seulement parce qu'ils ont fait preuve d'efforts importants pour ramener leurs importations de brut vers zéro et ont coopéré avec les États-Unis, a-t-il précisé, ajoutant que la liste de ces pays sera publiée lundi. Et peu après cette annonce, le ministre turc de l'énergie, Fatih Donmez, a affirmé que la Turquie bénéficiait de cette mesure. Le Pakistan a été en grande partie paralysé par des islamistes protestants contre l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi, qui avait été condamnée à mort en 2010 pour blasphème. Tous les grands axes et autoroutes du pays étaient fermés au trafic. De nombreux commerces et écoles sont restés fermés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Démarrage officiel en Côte d'Ivoire d'un programme de renforcement des capacités des PME, petites et moyennes entreprises, mis en œuvre par USAID et le cabinet Entrepreneur Solutions Partners. Étalé sur 12 à 18 mois, une vingtaine de PME vont en profiter. Pour la première phase, 5 PME ivoiriennes seront mises à niveau en matière de gestion comptable, de gestion fiscale et de conformité juridique. L'objectif est d'accroître la compétitivité des dites PME par une hausse de leur productivité, une meilleure efficacité, une forte motivation de leur personnel, l'élimination des gaspillages, la réduction des délais et l'optimisation des équipements. Le ministère ghanéen de l'énergie a lancé un appel d'offres aux compagnies pétrolières et gazières pour des négociations directes concernant les blocs en eau ultra profonde situés dans la partie orientale du bassin d'Otano. L'Égypte et l'Allemagne ont signé un protocole de coopération de 129 millions d'euros pour promouvoir l'éducation, l'enseignement technique, professionnels et universitaires et la recherche scientifique. Un protocole d'accord a aussi été signé dans le domaine de l'industrialisation, d'aide à la formation professionnelle, de renforcement de la compétitivité des zones industrielles et d'accroissement de leur capacité à exporter.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Jour J de la manche allée en finale de la Ligue africaine des champions.
Les Égyptiens d'Al Ahly et les Tunisiens de l'Espérance sportive s'affrontent ce soir à Alexandrie. De retour de blessure, le gardien Mohamed El Shenawy et le milieu offensif Islam Mouareb sont présents côté Kairot, à l'inverse d'Ali Maloul qui ne rejouera plus cette année. En face, le groupe tunisien est intact. Les deux clubs se sont affrontés une seule fois en finale de Ligue des Champions. C'était en 2012 et on se rappelle, Al Ahly l'avait emporté 1-1 à l'aller, 1-2 au retour, coup d'envoi 19h temps universel. Le match retour de cette finale aura lieu le 9 novembre à Tunis.
La République démocratique du Congo remplace la Réunion à la Coupe COSAFA.
Et oui, alors qu'elle était attendue pour prendre part à sa première compétition de jeunes, la Réunion a déclaré forfait pour le tournoi des moins de 20 ans du Conseil des fédérations d'Afrique australe. La Réunion se plaint de ne pas disposer de vols réguliers pour joindre la Zambie, pays hôte du tournoi. La RDC, qui a déjà participé en invité à des compétitions dans la zone, logera finalement dans le groupe A avec les Chipolopolo, le Malawi et le Mozambique. La compétition aura lieu du 2 au 12 décembre à Kitwe.
En Europe, Naby Keïta, toujours absent contre Arsenal.
Arsenal-Liverpool devrait tenir toutes ses promesses puisque les Gunners, 4e, accueillent les Reds, dauphins de Manchester City, dans le choc au sommet de cette 11e journée de Premier League. Mais le milieu de terrain guinéen manquera cette affiche. Touché aux adducteurs, Naby Keïta a repris l'entraînement mercredi, mais est trop juste d'après son entraîneur. Jurgen Klopp a en revanche rassuré sur l'état de santé de l'Égyptien Mohamed Salah, qui est apparu à l'entraînement mercredi avec une attelle au poignet droit.
On termine par le tour du Burkina Faso avec Mathias Sorgho qui file tout droit vers la victoire finale.
Et oui, à deux étapes de la fin du tour, le Burkinabé, bien amené par ses coéquipiers, résiste aux assauts des poursuivants comme à cette 8e étape disputée aujourd'hui entre Bobo Dioulasso et Boromo, 176 km. L'Allemand Hermann Keller est arrivé premier en 4h23 minutes 3 secondes. Il a devancé le Burkinabé Seydou Bamogo et le Belge Timi de Bouze. Mais au classement général, Mathias Sorgho garde ses 12 secondes d'avance sur Jor Angraff et 1 minute 32 sur Dieter Bouvry. Demain, la 9e et avant-dernière étape amènera le peloton de Lumbila à Kaya, 900 km 900.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. L'armée nigériane justifie les tirs à balles réelles contre des militants chiites qui jetaient des pierres sur les soldats à Abuja. Elle a repris à son compte des propos du président américain Donald Trump qui a justifié hier l'usage de la force armée sur des migrants s'ils jetaient des pierres. Ces deux cas de figure sont-ils comparables ? Pour une analyse sur cette question, Idriss Fall a joint le professeur Tundonu Amoussou, ancien vice-recteur de l'université de Lagos.
Absolument pas. Nous avons des contextes entièrement différents. Nous avons d'une part l'armée nigériane qui doit faire face à cette religieuse. Et cela n'a rien à voir avec l'affaire des migrants. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Moi, je crois que le problème ailleurs, la réponse des militaires nigériens face à des gens qui voulaient absolument en découdre avec.
Déjà, même sur le bilan, l'armée parle de 6 personnes, Amnesty parle de 45 personnes et les chiites eux-mêmes, ils parlent de 49 morts.
Vous savez, quand on commence à balancer des chiffres, c'est très difficile. À moins que vous êtes rendu, par exemple, dans les hôpitaux, dans les cliniques, et là, c'est très difficile. Mais une chose qu'on pourrait quand même confirmer, c'est qu'il y a eu des morts. Combien sont ces morts, franchement, je ne sais pas. Et là, tant qu'il y a des désaccords, on ne sait pas à qui on pourrait vraiment se fier.
Le nord du Nigeria, c'est essentiellement des sunnites. Et ce n'est pas la première fois que l'armée réprime de manière sanglante ce même mouvement chiite.
Non, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les chiites aussi voulaient vraiment découdre avec les militaires. Rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, un militaire de haut rang qui s'est trouvé confronté à ce groupe de chiites, justement, et que, franchement, il faut remonter à la source pour comprendre ce qui se passe. Le plus souvent, les gens disent que c'est tout simplement les militaires contre des civils. Je crois qu'il y a bien plus que cela. Même certains qui déjà commencent à comparer cet incident à ce qui a pu déclencher justement le mouvement de Boko Haram.
Et effectivement, quand l'armée a tué Mohamed Youssouf, Boko Haram a basculé dans une insurrection sanglante. Mais le leader de ce mouvement chiite, Ibrahim Zakzaki, il est en prison depuis plus de 3 ans et la justice a ordonné qu'on le libère et il n'est toujours pas libéré.
Là, je crois que je donnais entièrement tort aux autorités nigériennes. Nous sommes dans un pays de droit et que si justement on demande qu'on le libère, il faut respecter les tribunaux, il faut respecter la décision de la justice, même si cela ne vous plaît pas.
Et ce mouvement chiite, est-ce qu'il ne risque pas de basculer dans la violence?
D'autant le dit, vous savez, en matière de religion, c'est très difficile parce que déjà, ceux qui sont venus vraiment affronter les militaires, c'était des éléments bien décidés, qui n'avaient plus rien à faire. Et dans ces conditions, la dérive, c'est une question de temps.
C'était Tundonu Amoussou, ancien vice-recteur de l'université de Lagos au Nigeria.
Bonjour, c'est Abdourahman Dia. Retrouvez-moi à 18h, temps universel, dans votre émission À Votre Avis. Et on va parler de la fraude sur l'âge des joueurs. L'ancien président de la Fédération béninoise de football ainsi qu'une dizaine de joueurs de l'équipe nationale des moins de 17 ans ont été sanctionnés par la justice de leur pays. Le Bénin a été disqualifié des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans pour fraude sur l'âge des joueurs. Que pensez-vous de ce phénomène sur le continent? Comment y mettre fin? Laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
À Madagascar, la corruption touche tous les secteurs de la société, notamment les projets de travaux publics, l'attribution des permis de conduire, la justice, le trafic de bois de rose. Il ne va pas sans dire ici que ce fléau est au cœur des préoccupations des électeurs. À quelques jours des élections présidentielles, le point avec Salwa Jafari.
Dans le centre-ville d'Antananarive, à y regarder de plus près, la corruption est perceptible à chaque coin de rue. Elle fait partie du quotidien de Jimmy, un chauffeur de taxi.
J'ai glissé un billet de 2000 arriéris dans la poche de l'officier. Il a dit, pour qui me prends-tu? J'étais pressé, alors j'ai ajouté 5000 arriéris. Il ne m'a pas donné de ticket et j'ai pu partir.
Que ce soit pour accélérer un processus administratif, pour réussir un examen ou pour échapper à une taxe, la corruption gangrène la société malgache et son système judiciaire. Le fils de Jacqueline a récemment été arrêté pour consommation de drogue. Il nous a emmenés voir le juge. Une fois dans son bureau, nous avons discuté très longtemps. En fin de compte, nous sommes parvenus à un arrangement. Ce juge est celui qui traite le cas de mon fils. Il a dit, « Je promets de prendre soin de votre fils, mais vous devez d'abord payer. »
Jacqueline a fini par payer 100 euros pour assurer la liberté de son fils. Madagascar a toujours été un mauvais élève dans la lutte contre la corruption. Keta Kandri Naratifoson est directrice exécutive de Transparency International à Madagascar.
Les trois candidats favoris aux présidentielles sont impliqués, ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sur Avalman, ça s'est étendu sur Adjouelna, sur la transition, et ça a continué un temps sur Adjouna Jmapian, à peu près jusqu'en 2014.
Alors que Madagascar est classé parmi les pays les plus pauvres au monde, les trois principaux candidats disposent de moyens colossaux, notamment d'hélicoptères pour se déplacer. Ils auront 3 mois pour publier leurs dépenses de campagne après l'annonce des résultats de l'élection.
Autres élections proches également aux États-Unis, où le scrutin de mi-mandat se tiendra le 6 novembre. Les femmes sont présentées comme le segment électoral déterminant des mi-termes, comme on dit ici. Sur les 50 dernières années, elles ont voté en plus grand nombre que les hommes. Et jamais il n'y a eu autant de candidates aux élections de mi-mandat. Caroline Presutti de La Voix de l'Amérique s'est rendue à Montclair dans le New Jersey pour un gros plan sur les problèmes qui préoccupent les femmes. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma.
Des femmes blanches et instruites. Pour les experts, elles sont la clé de ces élections de mi-mandat. Lynn Fedel, détentrice d'une maîtrise, est institutrice dans le New Jersey. En 2016, elle a voté pour un candidat autre que Trump ou Clinton. Cette fois-ci, elle va soutenir les démocrates.
Je crois que le gouvernement peut faire beaucoup pour l'égalité dans les secteurs du logement, de l'éducation, pour la protection de l'environnement, et qu'en fait, il devrait faire davantage.
Chris Elliott, qui est retraité, a choisi de rester dans le camp républicain à cause de la question de l'immigration, même si elle regrette d'avoir voté pour Trump en 2016.
Je suis une immigrante. J'ai dû venir ici légalement et j'ai payé pour avoir tous mes documents. Cette histoire d'immigration illégale, moi je suis contre.
Pour des propriétaires de petites entreprises qui normalement sont indépendants, le thème clé, c'est l'économie. Écoutons Kate Smith.
Je mettrai l'accent sur des questions comme la responsabilité fiscale et financière, la réduction de certains programmes et régulations.
Des études de l'Institut Pew remontant jusqu'en 1992 révèlent que les femmes sont plus enclines à voter pour les démocrates. En 2016, 54% des femmes ont soutenu Hillary Clinton. La stratégie du Parti démocrate, pensent les analystes, c'est de chercher à regagner les électrices en proposant des candidats sans expérience politique.
Brigitte Callahan-Harrison, professeure à Montclair University.
Il y a des gens bien formés, des entrepreneurs, des médecins et scientifiques qui pourraient attirer un public différent comparativement à une candidate libérale typique.
Telle que cette démocrate, Mickey Sherrill. L'ancienne pilote de la marine de guerre brigue un poste dans une circonscription qui n'a élu aucun démocrate depuis 36 ans. Mais là, un supporter populaire parmi les démocrates. L'ancien vice-président Joe Biden.
Elle comprend le sens du devoir.
Elle le comprend.
Considérant ceux qui participent à nos meetings et organisent des levées de fonds, on peut dire que le vote féminin est crucial ici.
En face d'elle, Jay Weber, un républicain, il mise son expérience en tant qu'élu régional. Cette pub semble viser les femmes car on y voit son épouse et ses enfants. Il a aussi mobilisé un groupe appelé Femmes pour Weber.
Il me semble que le désir des femmes et des hommes, en grande partie, c'est une économie florissante.
Le produit intérieur brut du pays a augmenté en moyenne de près de 3% sur chaque trimestre depuis l'entrée en fonction du président Trump. Mais la question est de savoir si la vigueur de l'économie suffira à maintenir ce district aux mains des républicains. Les principaux sondages montrent que Weber et Sherrill sont dans une course serrée.
Jacques Aristide avec vous pour vous parler de l'Amérique et vous ce vendredi à 19h TU. Eh bien, les Américains se rendent aux urnes mardi pour des élections de mi-mandat. Démocrates et républicains ne sont d'accord sur rien et ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Pensez-vous que ce scrutin aura un impact sur l'agenda du président Donald Trump, y compris sa politique étrangère qui inclut l'Afrique? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous tout à l'heure. Vos commentaires et réactions sont les bienvenus sur Facebook et en direct au 001 202 205 26 23. À tout à l'heure.
Direction le Maghreb pour une page culturelle afin de découvrir le renouveau du cinéma tunisien qui brise les tabous. Les auteurs ne sont plus obligés de contourner par des non-dits et des métaphores les lignes rouges longtemps établies par le régime. Pour substituer à votre regard un monde conforme à vos désirs, Eric Manirakiza nous emmène à Carthage, au Festival du cinéma africain et tunisien qui s'ouvre demain.
7 ans après la révolution du jasmin, une jeune génération de cinéastes et producteurs tunisiens met à l'écran romans sociaux, questions politiques et conflits de l'intime, longtemps bannis. Cet art nourrit un renouveau du cinéma tunisien qui peut désormais parler de tous les sujets, surtout les sujets de société, la vie quotidienne, sa complexité et sa richesse. Merdi Parsaoui explique cette authenticité qui apporte déjà du succès.
La renaissance est due à la proximité qu'ont maintenant les auteurs avec leurs œuvres, qui font qu'ils ne sont plus obligés de contourner des choses, on n'est plus obligé d'être dans des non-dits ou dans des métaphores. On est dans un discours direct qui, des fois, peut plaire, comme des fois, peut ne pas plaire, mais on est dans une certaine forme d'authenticité.
El Jaïda est un film sur le combat pour l'amélioration de la condition des femmes tunisiennes, a enregistré 200 000 entrées cette année, la meilleure fréquentation depuis 15 ans. Eddy, coup de projecteur sur l'émancipation d'un jeune Tunisien conservateur et primé à la Berlinale, la belle et la meute sur le combat d'une femme tunisienne violée qui portait plainte et sélectionnée au Festival de Cannes. Également retenue à Cannes, où elle dit « Mon cher enfant » évoque le désarroi d'un père de la classe moyenne dont le fils part combattre en Syrie. Fatwa doit sortir en 2019 et décrit la radicalisation de jeunes Tunisiens, une réalité que les autorités tentent de minimiser. La liste est longue, et parallèlement à ce renouveau de la production, la distribution a également fait sa révolution. Toutefois, beaucoup reste à faire, comme l'indique Kaïs Zaïd, cofondateur d'une maison de distribution de films.
Il n'y a pas assez de salles, donc il n'y a pas assez de distributeurs, il n'y a pas assez de distributeurs parce qu'il n'y a pas assez de salles. Donc dès que ce problème-là sera réglé, je pense que ça va se répercuter sur tout le secteur automatiquement.
Outre le manque de salles, Habib Atia, producteur de films, déplore une législation obsolète. Pas d'encadrement de la relation entre producteur et distributeur, dit-il.
J'espère qu'on arrivera rapidement à moderniser les lois ou du moins à les mettre à jour pour que cet essor que connaît la production soit suivi aussi par des lois qui sont en adéquation.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot, à la console d'Anne Crafton, Nathalie Barge. Pour la présentation, on se retrouve plus tard. À très bientôt, au revoir.
soit.